L'historiographie de la fin du XXe siècle a fait des grands bonds en avant lorsque les chercheurs ont finalement abandonné la condamnation de l'Italie espagnole, qui avait été un dogme nationaliste. En même temps, on a cessé de décrier le soi-disant réféodalisation de la société et l'obscurantisme de la contre-réforme. Cette condamnation de l'Espagne avait toujours été basée sur un simple syllogisme que si l'Italie avait perdu sa primauté économique et culturelle en Europe et si l'Espagne était la puissance dominante dans la péninsule, le déclin a dû être une conséquence de cette domination. Le Risorgimento avait condamné comme insignifiant 2,5 siècles d'histoire italienne, une période de décadence sans intérêt pour un honnête homme. Alain n'avait pas mentionné, j'ai écrit le premier manuel sur l'Italie moderne, c'est-à-dire qui allait de la fin de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Et dans les 18 mois suivants, il y avait 2 autres en anglais et 2 en français. Donc on avait tout d'un coup redécouvert l'Italie, je l'appelle l'Italie baroque. Depuis l'éclipse de ce nationalisme militant vers 1960, les historiens de l'époque moderne ont beaucoup appris. D'abord, on fixe désormais le début de la dépression économique entre 1619 et 1630, quand le changement climatique, la peste et la guerre a fait des dégâts irréparables à l'Italie urbaine. Mais grâce au travail patient d'une génération d'historiens politiques, italiens comme étrangers, nous ne parlons plus du déclin spirituel ou intellectuel ou de la perversion des mœurs par une influence maligne de l'Espagne ou de la Castille. En fait, les empereurs et les rois d'Espagne élevaient volontiers les Italiens à des positions d'importance continentale. Il est sûr que l'ascendance espagnole a gêné plusieurs États autonomes qui redoutaient que le roi d'Espagne berçait un projet de monarchie universelle. Mais comme l'a observé l'historien genois Capriata déjà au XVIIe siècle, ils ont été contents de voir l'Espagne affaibli, diminué, mais pas aboli. Au XVIIe siècle, le ministre espagnol Olivares croyait que l'Empire espagnol était déjà assez grand. Il fallait cependant défendre le patrimoine des Habsbourg de ceux qui voulaient le démorceler à leur profit. Le roi Philippe IV et toute la classe politique de Madrid avaient l'impression que l'Espagne était entrée dans une période de déclin, mais que la meilleure politique était de défendre le statu quo coûte que coûte et de mener une politique de dissuasion. Ne pas chercher la guerre, mais de relever le défi avec résolution et honneur. Et ils avaient peut-être raison. Aucun État présentait une menace plus crédible que la France. C'est Alain Hugon qui a dénombré 6 conflits ouverts lancés par la France entre 1559 et 1700, plus un certain nombre de défis non déclarés. Une but stratégique des Habsbourg était de rétablir le catholicisme partout en Europe, un objectif partagé par la grande majorité des Italiens. Si la France s'était jointe à cette croisade des Habsbourg, il est probable que l'hérésie aurait été écrasée au milieu du XVIIe siècle. L'obstacle, c'était le cardinal Richelieu qui définit la politique belliqueuse de Louis XIII. Dans la lignée du professeur Hugon, les jeunes chercheurs comme Charles Gregory en Angleterre, Giuliano Ferretti à Grenoble et la regrettée Anna Blum ont jeté un regard nouvel sur le cardinal ministre et son projet d'étendre la France dans toutes les directions simultanément. Afin de prévenir une ligue dangereuse de puissances jalouses de son pouvoir, il était nécessaire pour Madrid d'imposer une Pax Hispanica sur le système d'État italien. Et j'en parle dans mon livre sur la noblesse militaire. Ceci avait pour conséquence de fixer l'ensemble des républiques et des principautés qui se rivalisaient tout naturellement et qui avaient eux-mêmes des projets de conquête. Ces États n'étaient nullement pacifiques, ils avaient bien envie de conquérir les territoires de leurs voisins. Aucun prince ou république n'était permis de s'étendre aux dépenses d'un autre sous peine d'intervention militaire de la part du gouverneur de Milan, qui était l'espèce de vice-roi en Italie du Nord. À partir de 1559, ces États étaient réduits à se rivaliser pacifiquement. Le roi d'Espagne n'était pas le seul souverain qui chercha à les gratifier de pensions ou d'autres compensations. Son cousin, l'empereur, souverain de la plupart de l'Italie du Nord, pouvait aussi ratifier les successions, conférer des titres et des dignités et de permettre la dévolution des petits fiefs au profit des États territoriaux. Aucun État italien, à part le Savoie, n'envoyait des députés siéger à la diète impériale, mais la plupart de ces États italiens eurent recours à la cour aulique en Allemagne afin de résoudre leurs querelles par des arbitrations. Les États italiens souhaitaient être souverains, mais on leur rappela avec insistance qu'ils étaient subordonnés à l'empereur ou au pape. C'est une des choses un peu habiles que Richelieu disait à ses princes italiens, qu'ils étaient en fait souverains. Ils pouvaient agir à leur guise. Mais l'empereur et le roi d'Espagne, le pape, les rappelaient que non, ce ne sont pas les États souverains. Ils sont des fiefs, soit de l'empereur, soit du pape et parfois même du roi d'Espagne. Louis XIII et Richelieu, ayant pacifié le royaume de France après plusieurs générations de luttes confessionnelles, rêvaient de grandes conquêtes. Le cardinal en particulier croyait que toute l'Europe tremblait devant les armes françaises. Sa politique belliqueuse contre la maison d'Autriche était loin d'être unanime en France, et le roi lui-même y est définitivement rallié à la fin de 1630 seulement, au grand dépit de Marie de Médicis, sa mère, et du prince héritier, Gaston d'Orléans. Richelieu croyait que l'Italie était le maillon faible de l'empire des Habsbourg et que le contrôle de la péninsule porterait les plus grands fruits. Il commence par déstabiliser les États plus petits sur les frontières. Déstabiliser, c'est peut-être même un mot faible, ce qu'il fait à la Lorraine en 1632 et ce qu'il a l'intention de faire pour la Savoie. Pendant les années 1620 et 1630, la cour de France encouragea ses juristes à justifier ses conquêtes par des arguments légaux. Il pensait d'abord utiliser l'appétit d'expansion de la maison de Savoie pour promouvoir la politique française. Il a aussi pu nullifier l'autonomie du duché de Mantoue par son contrôle de la forteresse de Casal Monferrato. Casal Monferrato, assiégé par les Espagnols en 1628, n'a pas été pris et il a été sauvé, entre guillemets, par une garnison française. Mais la garnison française n'écoutait pas le duc de Mantoue. Ils prenaient leurs ordres de Paris. Et donc le duc de Mantoue était un otage à la politique de Richelieu. Le duc Charles de Gonzague était complètement humilié quand le traité de Carrasco de 1631 compensa le duc de Savoie pour la perte de Pignerol avec des territoires mantouans sans autre compensation. C'est la prise de Pignerol par les Français en 1630 qui entraîne de lourdes conséquences pour le duché de Savoie pour l'avenir, car il permettait l'envoi de troupes françaises en Italie presque sans obstacle. Chacun savait que le roi de France n'abandonnerait jamais ses droits sur Milan ou Naples. Le nouveau duc de Savoie, Victor Amédée Ier, devenait un client vulnérable au roi de France puisque sa duchesse Marie-Christine, c'est la sœur de Louis XIII, assembla un lobby de courtisans pro-français à Turin. Les ducs de Savoie, d'abord, la dynastie des Savoie était parmi les plus guerriers de l'Europe. Les ducs de Savoie avaient l'ambition de conquérir le Montferrat, Mantouan, mais aussi la République de Gênes et par extension aussi l'île de Corse. Ces ambitions facilitaient une alliance avec la France en 1625 qui échoua sur le plan militaire. Les Savoyards cherchent à renverser la République par un coup d'État en 1628, ce qui échoua également. La duchesse de Savoie, dont les sœurs étaient reines d'Angleterre et d'Espagne, respectivement, ambitionnait un titre royal pour elle et pour ses enfants, et cette ambition brouilla les relations avec les voisins italiens. Richelieu offra d'accorder la reconnaissance de ses titres en échange d'une alliance militaire offensive contre l'Espagne. Mais cette alliance n'était pas très bien acceptée à la cour de Turin, où les frères et sœurs du duc se méfiaient des intentions du cardinal. En échange de cette alliance, Richelieu promit d'aider Victor Amédée de conquérir la République de Gênes dans les 3 ans. Ensuite, en 1633, il proférait une vague engagement à accorder Milan à la dynastie des Savoie en échange de participation militaire contre l'Espagne. Mais, en fait, Richelieu refusa de fixer le butin des alliés de la France par avance. Donc, c'était peut-être on accordera Milan aux Savoyards suite à la guerre. Le duc de Savoie pensait peut-être qu'une alliance française se solderait par une guerre rapide et réussie, après quoi sa propre position serait renforcée. Mais il ne se fiait pas du cardinal, avec bonne raison. Quand la guerre devenait imminente suite à la grande victoire de Nördlingen et des Habsbourg contre les ennemis en Allemagne, le duc se fit promettre la direction de l'armée confédérée en Italie. C'est-à-dire qu'il y aurait une armée franco-savoyarde en Italie du Nord, le commandant en chef serait le duc de Savoie. Mais il devrait composer avec le chef des troupes françaises, qui était le duc de Créqui, qu'il n'aimait pas, et qui était une créature du cardinal Richelieu. Cette prince, écrit l'ambassadeur Duplessis Praslin au cardinal en avril 1635, a l'impression que nous voulons le détruire. Je pense que l'impression était plus ou moins exacte. Il fallait utiliser la menace contre Victor Amédée afin d'obtenir son concours dans le grand projet de conquête de l'Italie du Nord. Et je cite l'autre ambassadeur, Particelli d'Emery, il fallait ou bien forcer le duc de Savoie d'unir ses troupes aux nôtres, ou bien attaquer le Piémont et par ce moyen engager l'armée espagnole en Italie. Pour le résoudre, je mets là les raisons avec les menaces. Et donc c'est l'ambassadeur Emery qui raconte ça plusieurs années après. Avec un supplément de promesses et sous la pression de la présence des troupes françaises déjà présentes en Italie, Victor Amédée signe le traité de Rivoli le 11 juillet 1635, quand les hostilités s'étaient déjà commencées. Les duchés de Parme et de Mantoue s'y sont ralliés quelques jours après. Le président Bellièvre chercha à faire adhérer la République de Venise aussi, mais elle préféra regarder sans s'engager. Le duc de Mantoue, Charles Ier, avait de bonnes raisons de craindre le pire. La guerre précédente de 1630 finit dans l'apocalypse pour sa ville capitale et la perte de contrôle sur le Montferrat tenu par cette garnison française. D'abord, il a voulu rester dans la neutralité. Ensuite, il avait la bonne idée de confier son duché à une garnison vénitienne qui ne pouvait pas être commandée par la France. Richelieu fit savoir que ses positions étaient inacceptables. Le duc Charles ne pouvait pas empêcher que des sentiments pro-espagnols s'exprimaient ouvertement à sa cour. Ses fils, ils étaient nés en France, étaient décédés en 1631 et 1632, laissant un petit-fils de 8 ans sous la tutelle de sa mère, Marie de Gonzague, qui était ouvertement philo-espagnole. Elle avait une correspondance assez nourrie avec Madrid pour leur raconter tout ce qu'elle savait sur les projets des Français. Richelieu attira un autre allié dans le théâtre italien, la Ligue des Grisons, des Suisses allemands et protestants qui avaient perdu le contrôle de la Valteline. La Valteline, c'est un couloir alpin stratégique reliant Milan avec les territoires de l'empereur. En 1620, les habitants italiens et catholiques se jetèrent dans les bras de l'Espagne pour empêcher la reconquête. Richelieu envoya le calviniste duc de Rohan dans la région au début de 1635 en promettant de rétablir l'ordre des Grisons sur la Valteline. Donc il allait effectuer la reconquête avec les armes françaises. Mais Rohan avait des instructions secrètes de ne pas transférer le contrôle de la région avant la fin de la guerre et surtout d'empêcher leur projet de réintroduire le protestantisme. Richelieu promit aussi beaucoup d'argent à ses alliés suisses sans pouvoir maintenir son engagement. Et ils avaient vite l'impression d'avoir été floués par le cardinal. Richelieu offrit au neveu du pape Urbain VIII Barberini de créer un état dynastique pour eux en Italie centrale. En 1631, le lignée des Della Rovere sur le duché d'Urbino s'est éteint et il était question plusieurs fois de le raviver. Urbain VIII était le pape le plus guerrier à Rome depuis longtemps et il faisait des préparatifs militaires tout au long de son règne. Mais Rome concevait la guerre des 30 ans comme le début depuis le début comme une croisade contre les protestants. Et l'État pontifical contribuait hommes et argent pour la cause des Habsbourg. Le pape déplora une guerre entre la France et l'Espagne car il compromit une victoire catholique qui semblait si proche en 1635. Urbain VIII, cependant, n'était pas confiant que l'Espagne serait capable de défendre ses territoires en Italie contre la France. Et au début, il écouta les propositions tentantes des émissaires du cardinal. Le pape ne faisait rien pour empêcher le duc de Parme, un allié enthousiaste de la France, qui enrôlait des soldats à Rome et dans les alentours de Rome pour son armée. Donc la réponse de la papauté était celle de la passivité devant une mobilisation croissante en Italie du Nord où une victoire française pouvait être soldée par la reconstitution du duché d'Urbino à une prince Barberini. À un moment, le pape pensait créer une ligue d'États italiens pour maintenir la paix, mais cela avait un écho très faible. Venise ne voulait pas s'engager dans des disputes territoriaux. Le duc de Savoie voulait conquérir la République génoise sans différer. Et le jeune duc de Parme rêvait des grands gestes belliqueux qui auraient eu pour conséquence l'expansion de son petit duché. Il était clair déjà en 1634 qu'il n'y aurait pas une ligue d'États italiens sous la bannière du pape. Face à cette menace française, l'Espagne réagit avec irritation et dédain. Louis XIII et le cardinal ministre promouvaient la victoire des protestants en Europe, disait-il. Il est sauvé de la destruction certaine. C'est très possible. J'explique à mes étudiants canadiens que si Richelieu s'était joint à l'Espagne, ils seraient tous catholiques. C'est très possible. Le catholicisme faisait un retour en douce en Angleterre aussi en même temps. Et puis pendant des décennies, l'Espagne accordait des faveurs et la protection aux États italiens soucieux de préserver un équilibre. L'Espagne espérait en particulier que la République de Gênes montrerait quelque gratitude pour l'aide militaire qu'il a sauvée de la conquête savoyarde en 1625. Beaucoup de maisons patriciennes cultivaient l'alliance espagnole, de laquelle ils tiraient prestige et profit, mais une portion du patriciat voulait quand même plus d'autonomie. Et en particulier, ils voulaient le droit de commercer librement avec les provinces unies des Pays-Bas. Ensuite, le roi d'Espagne fit banqueroute partielle en 1627 et de nouveau en 1628, ce qui fait beaucoup de mal aux financiers génois. La République de Gênes dépendait traditionnellement de l'Espagne pour sa défense, mais traditionnellement, elle n'était pas encline à contribuer elle-même. Le résident espagnol écrivait désabusé : les Génois sont ce qu'ils sont. Les soldats français traversaient le territoire de la République en route vers Parme sans être gênés, et les bateaux génois en transportaient d'autres vers la côte ligure pour passer ensuite à Parme. Quand les galères espagnoles transportaient des troupes napolitaines vers la Provence au printemps 1635, et ils étaient forcés de toucher terre en Corse, les autorités génoises ne faisaient rien pour rattraper les rameurs qui prenaient le large vers l'intérieur de la Corse. Donc les Génois n'aidaient pas. Le duc de Rohan pénétra dans la Valteline en avril 1635, même avant que Louis XIII déclare la guerre à l'Espagne. Bientôt, cependant, ses alliés grisons soupçonnèrent qu'il leur a menti quant aux intentions véritables de la France. Ensuite, au début du mois d'août, le maréchal Créqui partit de Casal Monferrato et occupa la Lombardie occidentale sans l'aveu de Victor Amédée, qui était censé être commandant en chef. Donc Créqui agit de manière autonome sans attendre des ordres. Le duc de Savoie tergiversait. Il disait qu'il fallait adopter une stratégie plus défensive. Alors Créqui met le siège devant la ville de Valenza, rejoint bientôt par le duc Eduardo Farnese de Parme, qui seul porta toutes les troupes qu'il avait promises. Donc tous les belligérants avaient promis de fournir X nombre d'hommes, et seul le duc de Parme les avait fournis, effectivement. Mais ces soldats italiens désertaient en grand nombre, s'enrôlant souvent dans l'armée Habsbourg par la suite. Le duc de Parme, il enrôlait n'importe qui. C'est le livre que j'ai publié l'année dernière où j'ai l'armée entière, soldat par soldat. Et donc on voit diminuer à vue d'œil le nombre des troupes qui portaient à l'alliance. Le duc de Mantoue se contenta de mobiliser des milices dans le Montferrat, mais pas des troupes professionnelles. Le duc de Savoie porta ses troupes à Valenza 2 semaines après le début de la siège, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour forcer la place. Valenza soutint un siège de 7 semaines et l'entreprise finit par un fiasco total pour les confédérés. C'était peut-être la place la plus mal fortifiée en Italie du Nord, mais il tenait pendant 7 semaines. Et on n'a pas pu le prendre. J'en parle dans ce livre, je parle du duc de Parme. Il est clair que les troupes espagnoles étaient très supérieures aux troupes françaises. Par la suite, la duchesse Christine avertit son mari. Je cite, « Le maréchal de Créqui n'est pas votre ami. Il a envie de vous perdre. » À plusieurs reprises, ses commandants se reprochèrent l'un l'autre leurs défauts. Le duc avait de bonnes raisons de ne pas faire confiance au cardinal, qui souhaitait annexer et la Savoie et une bonne partie du Piémont sous prétexte que ces pertes du duché du Savoie seraient compensées par des acquisitions en Italie. Mais les acquisitions, on ne les avait pas faites encore. La duchesse prenait la cause des ambassadeurs français, mais les frères du duc prenaient ouvertement position contre. Et le frère le plus jeune, le prince Thomas, est commandant en chef des armées espagnoles dans les Pays-Bas. Donc, ils se battent pour l'autre côté. Victor Amédée cherche toujours plus d'autonomie dans l'alliance et il met un blocus autour de Pignerol, c'est-à-dire la forteresse de son allié, pour empêcher qu'ils aient des provisions. Et il prit soin de tenir les villes piémontaises avec ses propres troupes savoyardes afin de tenir les Français à distance. On n'a pas d'informations sur l'origine ethnique des troupes du duc de Savoie dans l'armée de campagne. Je soupçonne que la majorité sont ethniquement français, les sujets du roi de France. Les sujets à lui, il les met en garnison pour ses propres villes, parce qu'il n'a pas confiance dans son allié. Les États italiens, avec l'exception de Parme, ne croyaient guère que le but de la France était de restaurer la liberté d'Italie, comme le proclamaient ses émissaires. Cependant, presque tous croyaient que les armes françaises seraient assez fortes pour balayer la domination espagnole en Italie comme dans les Pays-Bas. Mais la couronne française manquait d'efficacité administrative permettant de mobiliser ses vastes ressources. Une bonne partie de la France urbaine et rurale s'est soulevée contre les nouveaux impôts qui suffisaient à peine pour payer les intérêts sur la dette. L'armée de Richelieu atteint des dimensions jamais connues dans l'histoire de la monarchie, mais ses troupes ne suffisaient pas. Et la qualité des fantassins était bien moindre de celle de l'ennemi. En revanche, les Espagnols avaient peur de la cavalerie française. Tout le monde admettait que la cavalerie française, c'était l'arme vraiment redoutable. Pendant l'hiver 1635-36, l'Espagne mobilisa ses troupes, ses navires et de l'argent en Lombardie et en Naples, en Allemagne et en Espagne aussi. Dans sa position vulnérable à l'est, le duc de Mantoue, donc il fait partie de l'alliance française, prenait soin de garder des contacts diplomatiques avec le gouverneur de Milan, Leganés, afin de leur assurer qu'il n'attaquerait pas de ce côté. Les deux belligérants prétendaient ne pas être en guerre dans ce secteur, ce qui permit à l'Espagne de diminuer ses garnisons et de permettre aux manufactures de Milan d'exporter ses produits vers Venise et Bologne sans entrave. Les relations entre Mantoue et Milan étaient tellement cordiales que le duc recevait des avertissements chaque fois que les troupes espagnoles en transit passaient à proximité. Les autres adversaires, comme le duc de Parme, profitant de cette situation, transmettaient leur gros bétail sur le territoire des Gonzagues, sachant qu'ils y seraient en sécurité. Donc on avait en quelque sorte démilitarisé le duché de Mantoue proprement dit, et c'était dans l'intérêt de tout le monde. La France voulait désespérément l'assistance vénitienne, qui aurait été décisive. Venise n'a jamais été l'amie des Habsbourg, mais la République était confiante que Olivares et Philippe IV n'avaient pas de projet d'expansion dans la péninsule, et donc ils résistaient aux pressions de Paris. La Serenissima se contentait de fournir de la nourriture et des fourrages à l'armée du duc de Rohan dans la Valteline, mais non pas sans paiement. La République augmenta ses propres garnisons dans la terre ferme, mais maintient une stricte neutralité. Les Génois décrétèrent aussi une stricte neutralité, mais ils ne faisait rien pour empêcher les infractions commises par les Français ou les Espagnols. Les troupes françaises traversaient le territoire génois continuellement, sans préavis. La flotte espagnole achetait ses provisions dans le port de Gênes, librement. Les transports de troupes n'étaient pas permis de s'amarrer dans le grand port, mais les vaisseaux espagnols débarquaient du monde juste à côté, sans empêchement, dans la banlieue de Gênes. Les galères débarquaient des troupes pour la Lombardie. L'ambassadeur espagnol Francisco de Mello passait du temps à Gênes à projeter une invasion du duché de Parme par le sud avec l'aide du grand patricien philo-espagnol Prince Gian Andrea Doria, en utilisant la République de Gênes comme une base d'opération. Gênes était bien neutre, mais de manière qui portait beaucoup plus d'avantage à l'Espagne qu'à la France. Contre ce péril français, l'Espagne sollicita l'aide de ses alliés, le grand-duc de Toscane, le duc de Modène, même la petite République de Luc, qui tous ensemble devaient fournir les milliers de combattants professionnels et l'argent pour les équiper et les maintenir. Le petit duché de Guastalla fournit une compagnie de chevaux, mais sans transiger. Ils étaient complètement volontaires pour le faire, ils en tiraient un prestige, je ne dirais pas profit, mais ils en tiraient prestige. Le grand-duc de Toscane tenait l'état de Sienne comme une fief de l'Espagne. Une traité formel l'obligeait de fournir un contingent considérable de 4000 hommes, 4000 fantassins et 400 chevaux, plus ou moins égal au contingent des parmesans du côté des Français. Le grand-duc Ferdinand II subventionnait déjà ses frères cadets Matthias et Francesco, qui menaient des régiments en Allemagne au service de l'empereur. Donc la Toscane était déjà engagée dans la guerre des Trente Ans en Allemagne. Ferdinand, cependant, souhaitait que cette alliance avec l'Espagne soit purement défensive et donnait des instructions à son commandant de faire son mieux de ne pas combattre, car le grand-duc tenait à être l'ami de tout le monde. L'intention était de confier les Toscans à la garde des forteresses ou des châteaux, mais en cas de nécessité, ils pouvaient servir en campagne pour défendre le millénaire de l'invasion. Le contingent toscan n'atteint que la moitié du chiffre promis, continuellement diminué par les désertions. Au début, il manquait singulièrement de combativité, faisant des pactes avec les Savoyards qui les attaquaient de ne pas charger leurs mousquets de balles. J'ai trouvé ça deux fois. Attaqué par l'ennemi, il faisait signe que si les Savoyards ne chargeaient pas leurs mousquets de balles, ils feraient pareil. Et au bout de quelques résistances avec la seule poudre, ils se rendaient. On le soupçonne souvent, mais c'est beau de trouver ça par écrit. dans la correspondance savoyarde. Mais au mois de juin 1636, le corps expéditionnaire toscan nombrait plus de 2000 fantassins et un contingent de 500 hommes participa à la bataille de Tornavento, où ils se battaient convenablement et perdaient au moins le quart de leurs effectifs. Ce nouveau livre sous presse actuellement sur le mode de combattre, j'ai 90 pages sur la bataille de Tornavento et j'ai découvert des correspondances des officiers et de l'ambassadeur au grand-duc lui expliquant ce qui s'est passé cette journée-là avec beaucoup de précision. C'est parmi les meilleures sources sur la bataille. Mais par la suite, le grand-duc arriva à un accord avec l'Espagne qui prévoyait que la Toscane fournirait de l'argent seulement, 100 000 livres par mois, et il permettrait le recrutement des troupes pour l'armée habsbourgeoise sur son territoire. La Toscane fournissait aussi un soutien diplomatique précieux, aidant son beau-frère le duc de Parme de se retirer de la guerre et de l'alliance française sans perdre le territoire. Et ceci après que son duché avait été entièrement occupé par l'armée espagnole. Le duc de Modène, François Ier, Francesco Primo, l'autre beau-frère du duc de Parme, suivait d'abord une politique attentiste. D'abord, il a été séduit par les promesses du cardinal Richelieu. En 1634, les ministres espagnols étaient presque certains qu'ils se joindraient à l'alliance française comme Eduardo Farnese. Ce duc aussi avait l'obsession de son statut et croyait à la nécessité de saisir le moment juste de passer de l'Espagne à la France. Même après le début des hostilités en été 1635, l'Espagne n'était pas encore sûre de l'attitude de Modène. La dynastie berçait des rêves de conquête, mais cela concernait le siège ancestral de la maison d'Este de Ferrare, occupé par le pape, et donc Ferrare n'était pas en jeu. D'autre part, Francesco craignait que la victoire de la France rendrait ses voisins et ses rivaux, les ducs de Parme et le duc de Mantoue, plus puissants. Son ministre le plus sagace, Fulvio Testi, l'a fait comprendre que les ambitions françaises étaient bien plus dangereuses pour l'avenir des États italiens que celles de l'Espagne. Donc il resta indécis jusqu'au début de la campagne de 1635, quand il prit parti de suivre l'exemple de Venise et la papauté, de rester en dehors des États en première ligne. Ensuite, il signala à Madrid et à Vienne qu'il les soutiendrait, mais discrètement, afin de ne pas mettre en péril son duché. À la fin, Modène consentit à fournir des ressources à l'Espagne en échange de l'annexation de la petite place de Correggio qui avait une garnison espagnole. Ils avaient laissé comprendre qu'ils sortiraient leur garnison de Correggio une fois que la juridiction passait à Modène, mais l'Espagne n'avait aucune intention de sortir la garnison dans un endroit stratégique, et donc il avait l'impression d'avoir été floué par les Espagnols. Il était assez fâché. Il promettait de l'argent et une terre sûre de 3000 hommes pour l'armée de Leganés, mais il s'est bien gardé de le fournir. Modène payait quelques compagnies de soldats pour garder des places en Lombardie, 200 ou 300 hommes seulement. Cela changeait à la fin du mois de janvier 1636, quand ces États furent envahis sur l'ordre du duc de Parme, qui cherchait à piller les grains et les fourrages. Le duc Francesco mobilisa une armée de miliciens qui, avec le soutien des troupes espagnoles, repoussèrent bientôt l'envahisseur. Il jouait un rôle de soutien dans la petite bataille qui s'est déroulée sous les murs de Parme, et ensuite il déferlèrent sur le parmesan rural. Mais dès la fin du danger, Francesco chercha une paix séparée avec son beau-frère, retirant ses troupes pour se montrer conciliant. Il permit l'approvisionnement de la ville de Parme à travers son territoire, malgré le fait que c'était Odoardo qui jurait vengeance. Même la France incita le duc de Parme de se réconcilier avec son beau-frère par peur qu'il divertirait des ressources françaises dans une vendetta personnelle s'enfuit pour l'Alliance. Et suite à la bataille de Tornovento, Modène observa les hostilités d'assez loin, tout en restant dans l'Alliance espagnole. Comme Gênes et comme la Toscane, le duché soutenait le système espagnol, mais assez passivement. Le danger posé aux États italiens par les ambitions du cardinal Richelieu finit par s'éloigner à la fin 1636 et en 1637, parce que le prélat avait sous-estimé la capacité de résistance de l'Espagne, il avait sous-estimé l'adhésion des sujets italiens à leur roi catholique. Le cardinal attendait que les Milanais allaient accueillir les Français et les Savoyards comme des libérateurs, ouvrant les portes des villes avec la seule proximité des armées. En fait, les élites lombardes, et celles de Milan en particulier, ont fini par mobiliser des hommes en nombre sans précédent, voyant dans le roi de France et le duc de Savoie des ennemis héréditaires de leur liberté. L'invasion de l'armée confédérée pénétra assez loin dans l'état de Milan en 1636, mais elle fut arrêtée net par la bataille très sanglante de Tornavento le 22 juin. Les troupes espagnoles, napolitaines, toscanes, lombardes et allemandes se jetèrent sur les retranchements du duc de Créqui et a failli repousser les Français dans le Tessin lorsque le duc de Savoie vole au secours de son allié et le sauva d'un désastre. Les forces du roi catholique finirent par se retirer avec des pertes considérables, mais l'armée confédérée n'a pas pu avancer sur Milan à seulement 2 jours de marche. Donc, ils restèrent dans leur retranchement pendant 3 semaines et finirent par perdre beaucoup plus d'hommes à la maladie et à la désertion qu'ils n'ont perdu dans la bataille. Et j'ai des pages très graphiques sur à quoi ressemble un camp au bout de 3 semaines dans l'absence de latrine et par le fait qu'ils n'enterraient pas les cadavres pendant assez longtemps. Donc, on a fait les calculs de ce qui se passe avec ces cadavres sous une chaleur de 40 degrés tous les jours. On parlait beaucoup de mouches. Mais ça, c'est pour le livre qui va sortir à Oxford. La forteresse de Novare restait derrière leur position et menaça leur approvisionnement depuis le Piémont. À la fin, Victor Amédée et Créqui ont dû se retirer au début du mois d'août et adopter une position défensive. Le duc de Savoie craignait que le cardinal avait l'intention d'annexer ses états. Ainsi, il envoya un ambassadeur à Cologne avant la fin de l'année pour participer au pourparlers qui pouvait aboutir à une paix générale. Donc, dès le début de cette guerre, il y a des pourparlers de paix. Et le duc de Savoie voudrait aboutir à des paix tout de suite. Et c'est Richelieu qui fit obstacle. Et puis l'armée espagnole des Flandres remporta un succès considérable le 15 août 1636, prenant la petite place de Corbie sur la Somme, ce qui lui permet d'occuper une bonne partie de la Picardie et de pénétrer l'île de France. La fin du danger en Lombardie permet au gouverneur de Leganés d'occuper le duché de Parme et de forcer le duc belliqueux de sortir de l'alliance française. Le duc de Rohan finit par perdre tout à fait la confiance des Grisons et ils commencent eux-mêmes des pourparlers de paix avec les Habsbourg à la fin de 1636. Donc, pour conclure, le système d'État autonome italien qui datait de la Renaissance était incapable de faire face à la menace posée par la France par un front uni. Les alliés italiens de l'Espagne, comme la Toscane et Modène, contribuèrent aussi peu que possible, aussi tardivement que possible, et fermaient le robinet aussitôt que possible. L'armée française avait été véritablement vainqueur à Tornavento, elle aurait pu saisir les positions espagnoles en Italie, en commençant par Milan et ensuite à Naples et Sicile, mais ils auraient probablement saisi aussi à terme le duché de Savoie et le Piémont et la République de Gênes et la Corse. Probablement, ils auraient revendiqué la plupart de la terre ferme vénitienne qui avait une fois appartenu au duché de Milan au XVe siècle. L'ironie donc, c'est que c'était le roi catholique qui préserva les principautés et les républiques indépendantes par la force de ses armes. assisté sans doute par l'excès d'ambition de la France et l'incapacité du cardinal Fourbe, qui n'a pas pu inspirer la confiance dans ses interlocuteurs. Je m'arrête là.